don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi. Eh bien, nous sommes en partenariat avec Libération. Aujourd'hui, c'est Amaëlle Guiton qui est avec nous. Bonjour Amaëlle Guiton. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, une spécialiste des questions numériques pour Libération, justement. Et puisque ce matin, c'est une émission un petit peu particulière qui s'inscrit dans cette journée spéciale sur notre antenne. France Culture continue de mettre en récit le monde moderne après le premier volet. Consacré aux routes de l'exil, c'était en septembre dernier. On explore toute cette journée les dimensions des enjeux du numérique dans une journée conçue dans un, comme un vaste récit radiophonique à l'occasion notamment de notre nouveau site qui a été lancé lundi dernier. L'Internet est, on le sait bien sûr depuis plusieurs années maintenant, le théâtre de bataille féroce entre différents acteurs, les États, les entreprises privées, les utilisateurs. On va se pencher sur les rapports de force qui règnent dans ce monde numérique. On va essayer de comprendre comment les États et les acteurs privés pèsent dans ce jeu. Et plus globalement, on va essayer de saisir ce qu'Internet nous révèle des enjeux géopolitiques actuels. Pour ce faire, on s'appuiera évidemment sur l'actualité récente, celle qui agite nos parlementaires avec le projet de loi pour une république numérique porté par la secrétaire d'État chargée du numérique, Axel Lemaire, qui veut défendre la souveraineté numérique de la France. Celle un petit peu plus lointaine géographiquement, mais non moins importante, qui se joue du côté de Bruxelles. Hier, la Commission européenne présentait son programme de lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales, les géants de l'Internet en étant bien sûr l'une des principales cibles. L'Union européenne saura-t-elle faire payer les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres Apple, mais bien d'autres éléments de l'actualité numérique viendront alimenter nos discussions avec deux autres invités qui sont d'ores et déjà autour de cette table. D'abord Stéphane Grumbach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA de Lyon et puis un spécialiste des politiques numériques comparées. François Bernard Huyghe également, bonjour.
Bonjour.
Vous, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la communication, la cyberstratégie, l'intelligence économique. On va vous retrouver dans quelques instants. D'abord place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Dubaï. C'est Ferhat Alani. Bonjour Ferhat Alani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Bagdad et vous êtes en ce moment basé à Dubaï dorénavant. On vous reçoit pour votre reportage paru dans Géo, Dubaï, Détour, trois petits points. Alors on va rappeler quand même quelques éléments pour les auditeurs. On est dans la péninsule arabique, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Les Émirats, c'est une fédération qui a été créée en juillet 1971, composée de 7 Émirats. Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Al Kaiwan et Fujairah. C'est près de 4 millions d'habitants, 85% de nationalité étrangère. Aujourd'hui, Dubaï compte plus d'un million d'habitants, mais 2 millions si on regarde l'ensemble de l'agglomération. Pour tout le monde aujourd'hui, Dubaï, c'est bien sûr des projets touristiques totalement fous, des îles artificielles, des hôtels luxueux, des tours, évidemment la plus grande tour du monde, plus de 800 mètres de haut. C'est une ville en perpétuel mouvement, avec des constructions un peu partout. Qu'est-ce qui reste du passé ? De l'histoire de cette ville, c'est un petit peu la question que vous avez essayé de répondre. Alors quand on pense à Dubaï, en tout cas moi quand je pense à Dubaï, je pense aussi à Albert Londres, qui est la figure bien sûr tutélaire du grand reportage, mort en 1932 de retour de Chine sur ce paquebot. Et quelques mois avant justement ce retour, il fait un périple dans le golfe dans lequel il écrit un formidable texte, Les pêcheurs de perles que j'ai sous les yeux, qui est dont certains extraits ont été publiés dans le Petit Parisien à l'époque, sur les pêcheurs de perles de la région, sur cette côte des pirates, sur cette côte des vendeurs d'esclaves, faute d'être parvenus à aller avoir les autorisations pour se rendre à la Mecque. Il y décrivait la vie extrêmement rude de ces hommes qui, plongeant au péril de leur vie, remontaient des perles qui seraient portées ensuite par les riches femmes du monde entier. Albert Londres, il s'était notamment rendu aux pêcheries de Dubaï. Vous aussi, on en parlera dans un instant. Mais si on y va aujourd'hui, on ne trouve peut-être plus ces pêcheurs de perles, justement. Mais cette mémoire-là, la mémoire de ce temps-là, elle n'est pas complètement morte. Vous l'avez retrouvée notamment chez un vieil homme, Ahmad Al-Kedbi, un vieux cheikh vêtu de cette longue robe traditionnelle, de ce keffiyeh à carreaux rouges et blancs. Vous l'avez rencontré un peu à l'écart du centre-ville. Et pour lui, voilà, l'histoire, la culture de la région s'efface peu à peu. C'est un homme très nostalgique que vous avez rencontré, en fait.
Il a 85 ans et il est lui-même un ancien pêcheur de perles. Et il m'a d'abord raconté comment il pouvait plonger dans l'eau en apnée pendant 3 minutes pour aller chercher des perles, pour pouvoir manger des dattes, comme je le cite. Parce qu'à l'époque, la vie était très rude. Et la plupart des pêcheurs de perles mangeaient des dattes et de l'eau, et buvaient de l'eau. Aujourd'hui, il roule en 4x4 de luxe. Il a une villa cossue dans le quartier de Jumeirah, qui est le quartier résidentiel des Émiratis à Dubaï. Et il est effectivement très nostalgique et il retourne souvent dans le désert. C'est là que je l'ai rencontré, c'est là où il m'a emmené. Voir les rares tentes de bédouins que l'on voit au loin, avec la skyline en filigrane derrière. Il est très nostalgique, il raconte ses histoires où il me raconte qu'à l'époque il n'y avait pas de route, pas de voiture, pas d'électricité. Il est l'une des rares mémoires à Dubaï que j'ai eu un peu de mal à trouver, parce qu'effectivement quand on est dans le centre-ville de Dubaï avec les gratte-ciels, les malls, on ne les rencontre pas vraiment.
Comment vous l'avez déniché ?
Je l'ai déniché via un des plus anciens expatriés indiens, qui est la première communauté à s'être installée dans la région, qui est l'homme qui a apporté l'électricité à Dubaï.
C'est Magamal Pacholia.
Exactement.
Il est arrivé en 42.
En 42. Il a 92 ans. Et il raconte lui-même également les conditions très rudes à l'époque, sans électricité, avec une chaleur étouffante, où les femmes indiennes restaient en Inde parce que c'était trop compliqué pour elles de venir. Et un jour, il a eu l'idée d'importer un groupe électrogène pour alimenter sa maison et celle de ses voisins.
Oui, parce que ce que vous dites pas, c'est qu'il s'est lancé dans cette nouvelle aventure en montant effectivement une société d'électricité parce que le commerce de la perle s'est arrêté.
Voilà. Le commerce de la perle, en fait, alimentait la pauvre économie de Dubaï. Mais un jour, un Japonais a inventé la perle de culture. Et ça a cassé le marché des perles. Et du coup, Dubaï a connu sa première crise très dure. Et donc, les Indiens sont arrivés avec différentes marchandises pour essayer de développer un commerce à Dubaï. Et c'est comme ça qu'il a été amené à rencontrer les locaux. Et il m'a guidé vers Ahmad El Kedbi, qui est un ancien collègue.
Et un ancien collègue, un cheikh qui regrette que les jeunes d'aujourd'hui... Alors, ils disent évidemment, c'est très bien qu'ils aillent dans les écoles les plus modernes, qu'ils aillent aussi poursuivre leurs études à l'étranger. Mais, par exemple, la pratique du majlis, c'est-à-dire cette sorte de réunion traditionnelle, eh bien, ils regrettent qu'elle ne soit plus... que les jeunes l'aient un petit peu oublié. C'est évidemment, c'était un moment où les ancêtres pouvaient parler de tous les sujets de la communauté. Et ça n'existe plus aujourd'hui à Dubaï.
C'est très rare. Alors lui, il parle justement de cette école moderne qui a remplacé la tradition orale des bédouins, donc autour de ces mejlis, qui sont tout simplement des canapés. Aujourd'hui, ce sont des canapés que les Émiratis placent dans leur jardin et ils alpaguent les passants, récitent des poèmes, racontent des histoires. Et il dit que ça s'est perdu, ce qui est vrai aujourd'hui à Dubaï, et il le regrette. Il trouve que la nouvelle génération d'Émiratis est trop portée vers la modernité, effectivement.
Trop porté vers la modernité. Lorsque ce vieil Indien arrive dans les années 40, il vous dit que les relations avec les Bédouins sont à l'époque excellentes. Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors pas seulement avec les Bédouins, parce qu'on est quand même dans une ville où il y a quoi? Une cinquantaine, une soixantaine de nationalités différentes.
200 communautés.
200 communautés différentes. Comment se passe la cohabitation? Est-ce qu'on arrive dans cet environnement, pardon, à créer des liens, à participer de la construction d'une identité nationale?
Alors, il y a un sentiment national, mais qui est lié à un contexte particulier, parce que les Émirats sont en guerre et bombardent le Yémen et sont impliqués dans la guerre aussi contre les...
Ouais, elle fait partie de la cohabitation,
la coalition,
menée par l'Arabie Saoudite.
Exactement. Du coup, il y a un sentiment comme ça, patriotique, qui voit le jour, avec des drapeaux, avec un hymne national qui passe dans les télés et les radios. Mais au jour le jour, les communautés, même si elles se côtoient, n'ont pas vraiment de relations sociales, en fait. C'est chacun travaille dans son domaine. Et à Dubaï, c'est un petit peu comme ça, mais chaque nationalité est plutôt portée vers un métier. Donc les Indiens sont plutôt aujourd'hui dans les groupes télécoms, les Pakistanais sont les chauffeurs de taxi, les gens du Bangladesh et du Népal sont dans la construction, les Libanais dans le commerce, enfin bon, voilà. Donc c'est...
Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les pêcheries de Dubaï, justement, celles qu'avait visité Albert Londres?
Pas grand-chose. Aujourd'hui, ce sont d'immenses ports qui servent à importer et exporter des marchandises, mais on ne trouve plus d'activité liée à la perle, évidemment. Il faut vraiment aller dans les faubourgs de Dubaï, sortir un petit peu, aller rencontrer les rares Émiratis qui acceptent de parler parce qu'ils sont hyper très très occupés et puis ils se mélangent pas beaucoup.
Vous dites qu'il y a une communauté quand même qui a peut-être une place un peu à part à Dubaï, c'est les Philippins. Vous racontez qu'il y a certaines vieilles maisons qui ont été sauvées de la démolition grâce à la mobilisation populaire et que en particulier les Philippins ont joué un rôle très important là-dedans.
Alors, en fait, les Philippins sont arrivés lorsque les Émirats se sont développés dans tous les métiers de service. Et donc il y a un quartier qui s'appelle Satwa qui est pas loin du centre-ville de Dubaï, où les Philippins habitent. Ils sont à peu près 500 000, ce qui est la deuxième communauté à Dubaï. Et ils commencent à avoir effectivement une influence dans la vie de tous les jours. Et ce quartier, qui est un ancien quartier, a failli être rasé pour un projet de centre commercial. Et les Philippins se sont mobilisés avec des locaux aussi, à travers les journaux, la radio, les réseaux sociaux. Ils ont évité la destruction de beaucoup de maisons qui datent des années 40.
C'est le cas par exemple de cette jeune nourrice Anna Lopez qui vous dit combien elle aime son quartier.
Oui, elle aime son quartier qu'on appelle le Petit Manille.
Elle est chez elle, elle dit.
Elle est chez elle. Il y a des restaurants philippins, on parle le dialecte philippin. Elle se sent chez elle. Les boutiques vendent des produits des Philippines et du coup, c'est vrai que quand on se balade à Satwa, on est aux Philippines. Et tout comme le quartier de Dera, qui lui est le petit Bombay, avec toute la culture hindoue, avec le Diwali, qui est une des plus grandes fêtes hindoues. Donc d'un trottoir à l'autre, on passe d'un pays à l'autre finalement à Dubaï.
Elle est chez elle, mais elle est catholique, Anna Lopez. Est-ce qu'elle peut pratiquer sa religion sans difficulté dans cet environnement ?
Alors justement, dans ce climat aujourd'hui délétère où les confessions, notamment sunnites et chiites, se font la guerre, à Dubaï, il y a une certaine liberté. Il y a des églises à Dubaï. Il y en a trois. Les Philippins se retrouvent pour la messe. Alors plutôt le vendredi.
Plutôt le vendredi.
C'est
le jour de repos pour les musulmans, donc on va à l'église le vendredi.
Exactement. Et ils appellent souvent le vendredi le jour de le Church Day, le jour de l'Église. Et donc elle explique qu'elle se sent tout à fait libre de pratiquer sa religion à Dubaï.
Alors preuve que Dubaï aussi a du mal à faire vivre son passé. On va bientôt construire un musée dans lequel on va pas présenter justement les origines bédouines de la ville, mais on va se projeter vers l'avenir. C'est un musée de l'avenir.
Le musée du futur.
Le musée du futur.
Alors, il y a des musées qui évoquent le passé. Il y a quelques symboles comme ça tout au long de la ville. Le musée de la Perle, le musée des Bédouins. Il y a des musées liés à la tradition islamique. Mais ils sont effectivement portés vers l'avenir. Et donc, il y a ce musée du futur qui verra le jour en 2017, où l'idée est de faire venir des artistes et des experts en innovation technologique du monde entier pour créer quelque chose à partir de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, en revanche, ils en sont quand même très fiers. L'histoire de la perle, c'est un symbole qu'ils rappellent souvent.
Mais ce musée du futur, finalement, il incarne aussi peut-être cette capacité dont Dubaï a fait preuve, c'est cette capacité à diversifier son économie à la faveur de la manne pétrolière. C'est aussi ça, la force
Exactement.
De Dubaï.
Oui. À Dubaï, il faut savoir que le revenu lié au pétrole relève de 2%. C'est rien du tout. Et du coup, la leçon qu'ils ont retenue de cette crise de la perle, aujourd'hui, elle est appliquée. C'est-à-dire qu'ils ont diversifié leur économie dans plusieurs domaines. Et de toute façon, ils le revendiquent aussi. La première source de revenus, ce sont les étrangers qui s'installent. Et donc, ils essaient de diversifier ça au maximum, que ce soit dans le commerce, dans les innovations technologiques ou dans l'art même.
Dans le marché de l'art, ce que j'allais dire, parce que je crois que Dubaï est en train de devenir une plateforme sur le marché de l'art. Je crois qu'il y a tout un quartier où
Exactement,
ouvre très régulièrement des galeries.
On trouve des galeries partout à Dubaï. Et il y a une espèce, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un émirati que j'ai rencontré, une espèce de frustration par rapport à la culture. Et du coup aujourd'hui ils ont un appétit pour la culture et ils essaient de faire venir des artistes du monde entier, d'ouvrir des galeries d'art, des musées. Et donc ils ont énormément de projets.
Dites-moi Farah Talani, peut-être dernière question, parce que ces Émirats Arabes Unis, ils sont géographiquement bien sûr positionnés entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux grands ennemis de la région, l'un à majorité chiite, l'autre à majorité sunnite bien sûr, qui se livrent plusieurs guerres à distance, la Syrie, le Yémen, les tensions sont beaucoup accrues évidemment ces derniers temps, on sait qu'il y a eu aussi, je crois qu'on a rompu totalement d'ailleurs les relations diplomatiques entre les Émirats Arabes Unis et Téhéran. Comment est-ce qu'on vit toutes ces tensions à Dubaï ?
Alors, on les vit.
Elles inquiètent.
Elles inquiètent parce que à Dubaï, justement, on peut rencontrer énormément de Saoudiens, énormément d'Iraniens, et des gens qui viennent du Pakistan, d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie. Et donc, ces conflits-là, on essaie en tout cas de les oublier à Dubaï. C'est-à-dire que les autorités également n'autorisent pas vraiment les gens à faire de la politique ou à parler de politique.
À s'exprimer, c'est très
compliqué.
Y compris pour les étrangers.
Y compris pour les étrangers. C'est-à-dire qu'il y a un problème, je trouve, à Dubaï pour de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment s'exprimer sur la politique et encore moins sur le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Parce que les Émirats sont impliqués depuis quelques années, activement. Ils ne sont plus neutres. Et donc, c'est un sujet très sensible et les Émirats veulent l'éviter.
Ouais, donc on est un peu dans un environnement quasiment schizophrénique, c'est-à-dire avec une partie extrêmement libre, moderne, et une partie extrêmement conservatrice.
Extrêmement conservatrice et paranoïaque. C'est-à-dire que notamment depuis l'intervention au Yémen, on sent que les autorités sont très tendues et essaient de contrôler tous les aspects de la vie quotidienne. Il y a de plus en plus de caméras, il y a de la surveillance des réseaux sociaux également. Et à travers leurs journaux locaux, ils passent des messages. Je me souviens d'un titre. C'était « We are watching you », nous vous regardons.
Oui, ça c'est clair.
C'est assez intimidant.
Réaction ici en plateau avec nos autres invités, Stéphane Grombach, François-Bernard Huyghe, Amel Guiton, que vous inspire ce retour de Dubaï, cette situation, c'est un Dubaï en pleine mutation, qui a du mal un peu peut-être avec son passé. Quelqu'un veut réagir ?
Non, rien de particulier.
Enfin,
on voit là qu'il y a des niches hein, qui se créent. Et que lorsque un petit pays peut combiner une niche économique ou autre et une vraie stratégie d'influence, une compréhension de ces facteurs d'image et de communication, il peut se développer sur ce modèle bizarre où 85% de la population est étrangère. Ce sont des modèles un peu aberrants, mais ça a l'air de fonctionner.
Stéphane Grombach.
Oui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la capacité à se préparer à l'après-pétrole,
hey.
Et qui sans doute fait une transition sur le numérique, l'économie numérique et le changement qu'on vit aujourd'hui dans notre pays.
Qu'on va évoquer dans un instant, Amel Guiton, un mot.
On parlait de numérique, effectivement, ce que vous évoquiez tout à la fin, c'est-à-dire la surveillance des réseaux sociaux, ça on sait que c'est devenu une donnée dans ce pays-là, mais dans d'autres de la région, qui est effectivement extrêmement lourde avec... On le voit aujourd'hui hein, de la part des gens qui s'expriment et qui continuent à s'exprimer, même des stratégies d'évitement, de pseudonymat, etc. Parce que c'est devenu un vrai problème, une vraie difficulté.
Dubaï, c'est un territoire très connecté, hein, Farah Talani.
Ultra connecté. C'est-à-dire que la police de Dubaï, par exemple, a un compte Twitter et répond à chaque tweet. Ils sont très actifs.
Il est intéressant de voir au passage que les pays les plus connectés, c'est-à-dire les pays où tout le monde a plusieurs smartphones, plusieurs comptes, etc., ne sont pas forcément ceux qui se sont révoltés le plus au moment du printemps arabe et que c'est pas si mécanique que ça. Voilà.
Merci beaucoup, Farah Talani, d'être passé dans notre
Merci
studio.
Merci.
Je rappelle donc votre reportage qu'on peut lire dans Géo, Dubaï détour. Comme à chaque fois, à la fin de cette séquence de Retour 2, on met une petite musique. Plutôt tradition ou modernité ? Plutôt chant bédouin ou rap from Dubaï ?
Chant bédouin.
Chant bédouin ? Allez, chant bédouin. Merci, Farah Talani.
Merci.
Voilà, c'est avec ce chant bédouin qu'on vous quitte, Farah Talani. Et puis tiens, dernière chose, j'ai oublié de le dire, mais pour découvrir un peu plus encore Dubaï, il y a un Ville-Monde qui va être diffusé sur France Culture. Un Ville-Monde qui a été réalisé par Arnaud Contreras et Rafik Zénine, que vous avez d'ailleurs rencontré à Dubaï. Je crois que vous faites partie d'ailleurs des voix qu'on entend dans cette émission, qu'on entendra, c'est le 21 février prochain, 21 et 28 février prochain. Alors l'actualité récente concernant le numérique qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien elle regorge bien sûr de tensions relatives relative à cette question, en France, avec, je disais, le projet de loi pour une république numérique, au niveau européen également, avec la bataille qui fait rage. Il y a la Commission européenne qui a présenté hier son programme de lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales, notamment avec ces fameuses GAFA. Récemment, il y a un rapport du Parlement européen qui évalue à 160 milliards d'euros le manque à gagner. Mais que peut Bruxelles et les États membres face à ce géant de l'Internet? Et puis, par ailleurs, si Internet a été développé, bien sûr, par le complexe militaro-industriel américain, aujourd'hui, les grandes sociétés qui ont pourtant bénéficié pendant des années des investissements de l'État en recherche et développement, eh bien, elles deviennent réticentes à exécuter sans broncher les injonctions des autorités fédérales. On en parlera tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, finalement, au-delà de l'Europe et des États-Unis, c'est le pouvoir des États-nations eux-mêmes dans la gouvernance d'Internet qu'il va falloir interroger à présent, parce que finalement, c'est leur souveraineté politique, économique, financière qui est en jeu. C'est toutes ces questions qu'on va aborder avec vous, Stéphane Grumbach, avec vous, François Bernard Huyg, et puis avec vous, Amaël Guiton, journaliste à Libération, notre partenaire le vendredi. Alors, je voudrais commencer peut-être avec un mot sur l'actualité, parce que on a appris récemment que l'ICANN, qui est donc la société chargée de l'attribution des noms de domaine et des adresses IP à l'échelle mondiale, allait peut-être changer de modèle de gouvernance. Écoutez son président, c'était il y a quelques mois.
Today, the US government has announced its decision to transition of the unique identifier system.
Aujourd'hui, le gouvernement américain a annoncé la transition du système d'identification unique qui a été administré par l'ICANN depuis 15 ans. Transition vers une communauté mondiale. Ce qui va changer est de savoir que l'ensemble de la communauté mondiale, en tant que partenaires égaux, quel que soit le secteur, y compris la gouvernance, aura la confiance que nous effectuerons nos fonctions d'une manière responsable et transparente, selon les souhaits de toute la communauté mondiale.
De toute la communauté mondiale. C'était Fadi Chehadé, donc le président de l'ICANN, donc cette société chargée d'attribuer les noms de domaine et puis les adresses IP. C'était en mars 2014. Jusqu'ici, cette ICANN relevait en dernière instance du département du commerce des États-Unis, parce que c'était une entreprise de droit californien. Et puis là, il va y avoir du changement, puisque l'ICANN pourrait changer son mode de gouvernance. On pourrait peut-être associer les acteurs privés, les utilisateurs et même peut-être des représentants de gouvernements étrangers. Amaël Guiton, vous qui suivez cette actualité depuis des années maintenant pour Libération, c'est quoi? C'est une révolution dans la gouvernance d'Internet ou finalement c'est une simple évolution assez marginale, sans effet majeur à entendre?
J'irai pas jusqu'à dire que c'est une révolution, mais en tout cas, c'est une inflexion. Mais d'ailleurs, c'est moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce débat sur la gouvernance de l'Internet, et notamment, effectivement, ces organes de gouvernance, hein, vous parliez de l'ICANN, il y a aussi l'IETF qui s'occupe des protocoles de communication sur le réseau, il y a aussi le W3C qui gère les standards du web. Ça fait longtemps qu'il y a des États qui remettent ça en question au prétexte que c'est sous domination américaine. Alors, jusqu'à maintenant, non, c'était plutôt la Russie
faut-il
ou la
rappeler,
Chine.
Faut-il rappeler peut-être l'événement l'année dernière avec la France qui avait demandé des noms de domaine en .20 ou en .wine qui s'était vu refuser effectivement tout cela. Et la France avait été absolument furieuse. Il y avait eu un communiqué dans lequel on avait dit mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne respecte pas la diversité culturelle, on ne respecte pas les intérêts économiques des États.
Pour le
et
coup,
il faut changer de gouvernance. C'était assez clair. Hein.
Oui, mais pour le coup, on va dire que la question du .20 ou du .wine, c'était un épiphénomène par rapport à ce qui a été le vrai changement, à savoir le scandale Prism. Parce que, en fait, c'est à partir de ce moment-là que les rapports de force évoluent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les États occidentaux qui disent le modèle de gouvernance de l'Internet, il faut le défendre, et puis de l'autre côté, la Russie et la Chine qui disent il faut que tout ça passe sous contrôle de l'ONU, ce qui était un peu le débat avant. Là, on est dans autre chose. Hein. C'est-à-dire que y a plusieurs observateurs qui ont parlé au moment du scandale Prism de partenariats publics-privés autour de la surveillance, entre donc d'un côté les services de renseignement américains et puis de l'autre tous ces grands acteurs de la Silicon Valley qu'on connaît très bien, les fameux GAFA. Et donc on voit bien aujourd'hui effectivement comment ces questions de souveraineté, elles réémergent parce que tout le monde se pose la question de la protection des données, du rôle des États. Il y a eu un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne important hein, l'année dernière, qui était l'annulation de ce qu'on appelle le Safe Harbor, qui est en fait l'accord qui permet les échanges, enfin les le, d'envoyer les données des utilisateurs, des citoyens européens, sur le territoire américain, justement, quand c'est des données qui sont gérées par de très grands acteurs. Le Safe Harbor a été annulé parce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les données des Européens n'étaient pas suffisamment protégées sur le territoire américain. Donc on voit bien, effectivement, comment les rapports de force évoluent autour de cette question et autour, effectivement, de la maîtrise et des données et des outils, de l'infrastructure, des logiciels, etc. Enfin,
alors que nous dit François-Bernard Huyghe et Stéphane Grombach, effectivement, l'évolution en matière de gouvernance de cette société?
Oui, alors effectivement, on a eu une sorte de fixation sur cette histoire de l'ICANN dont on parle depuis des années. Les premiers livres sur la géopolitique d'Internet étaient complètement centrés là-dessus, et ce paradoxe que l'attribution des adresses, en quelque sorte, dépend d'un organisme de droit californien. Donc il y a une réaction étatique, on a vu au moment de la réunion de Dubaï, confions ça à l'ONU, où nous aurons notre droit de veto, etc. Les Chinois ont fait très, très fort dans ce genre-là, et on va probablement arriver à une sorte de compromis mou pendant que le réel pouvoir technique sera passé ailleurs.
Un compromis mou dans quel cadre? Est-ce que, par exemple, le cadre onusien pourrait être un cadre?
Oui, probablement. Très honnêtement, moi, je ne sais pas la solution à ce truc-là. Je ne sais pas si quelqu'un l'a sait. Mais je crois que ça. Enfin, il me semble que ce n'est qu'une petite partie du problème. Et le problème, c'est l'émergence énorme du problème de la souveraineté dans le numérique. D'abord, souveraineté ne devient plus un mot obscène réservé à des néo-populistes particulièrement grincheux. Et ça touche à la frontière, ça touche à la guerre, ça touche à la population, ça touche à des choses fondamentales. Mais je crois qu'on va voir.
On va y venir tout de suite à la souveraineté numérique. Stéphane Grombach.
Je vais être un peu caricatural, mais l'ICANN, c'est le code postal.
Ouais.
Le contrôle de l'Internet est beaucoup plus aujourd'hui assuré par les grands opérateurs, qu'on appelle GAFA en France, mais qui sont les grandes plateformes d'intermédiation et qui sont aujourd'hui bien plus notre point d'entrée vers l'Internet que simplement les URL, les adresses que gère l'ICANN. Donc cette question de la souveraineté, elle est importante aujourd'hui, effectivement, parce que, d'une certaine manière, les grands opérateurs du numérique effacent petit à petit les frontières. Ils opèrent sur tous les territoires, ils imposent des normes, de nouvelles normes, qui rentrent en contradiction avec le droit des territoires. On le voit à répétition sur le droit à l'oubli, le droit du travail, par exemple, aujourd'hui. L'agitation est grande autour de l'avenir des taxis et de la position d'Uber. C'est aussi sur les questions politiques, puisque nous souhaitons voir certains contenus politiques supprimés du net et les questions fiscales que vous avez évoquées précédemment. La question de la souveraineté numérique est une question qui agite beaucoup les Français. Le concept n'a aucun sens aux États-Unis. Personne ne parle de souveraineté numérique aux États-Unis. On considère que l'enjeu des plateformes est commercial, normatif, mais en aucun cas une question de souveraineté. Et il y a un hiatus entre la position de l'Europe et celle des Américains qui est important et qu'il va falloir comprendre et sur lequel il va falloir travailler.
Et alors justement, votre regard sur cette fameuse loi, le projet de loi porté par Axel Lemaire, cette loi pour une république numérique. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a la députée socialiste Delphine Bateau qui a proposé un amendement au projet justement dans lequel elle défend l'idée du développement d'un système d'exploitation souverain. En gros, il s'agirait d'élaborer un système qui permettrait d'échapper à ceux qui sont proposés aujourd'hui par Microsoft, par Google, etc., par Apple, bien sûr. Visiblement, les professionnels et les observateurs du numérique trouvent ça complètement farfelu, complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Oui, je pense que c'est assez français comme position, c'est-à-dire que on va écrire une loi comme quoi il faudrait en fait avoir un OS souverain par exemple ou des opérateurs, mais quel peut être l'effet d'une telle loi? Je crois que ce qu'on ne comprend pas bien en France, c'est qu'on n'a aucune maîtrise du numérique. Nous sommes dans un état qui est essentiellement proche du sous-développement. Nous ne savons pas fabriquer de machines.
Vous êtes dur, dis donc.
Oui, mais il vaut mieux comprendre la réalité que ne pas y faire face. Nous ne fabriquons pas de machines, nous ne sommes à l'origine d'aucun système d'exploitation, nous n'avons aucun grand système en ligne, du type Google, Uber ou tant d'autres. Nous sommes donc complètement dépendants de l'industrie américaine.
Et donc c'est pas avec cette loi pour une république numérique que les choses vont avancer. On va pas rattraper notre retard, c'est ça que vous voulez dire?
Si on veut effectivement traiter ce sujet, il faut se mettre en ordre de bataille pour le traiter. Et c'est pas une loi effectivement qui va changer le problème.
Amaël Guiton.
L'idée d'un système d'exploitation souverain effectivement apparaît comme assez fumeuse aux yeux des techniciens, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle des logiciels libres, hein, dont le code est à la disposition de tout un chacun. Et il y a pas mal de gens qui disent plutôt que de réinventer la roue, autant s'appuyer effectivement sur ce qui est existant, essayer de le développer, de l'améliorer et de l'utiliser plus. Ceci étant, je pense que derrière cette réponse qui me semble effectivement être une mauvaise réponse, il y a une question qui est en grande partie légitime effectivement, qui est celle d'outils qu'on utilise tous les jours et sur lesquels on n'a pas la maîtrise. Et de ce point de vue-là, j'ai quand même tendance à penser que la loi numérique pose de vraies questions effectivement sur de quels outils on se sert. Il y a eu un débat sur l'usage du logiciel libre dans les administrations. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui concernent les droits des utilisateurs sur leurs données. Alors c'est vrai que manifestement ça agace beaucoup les plateformes, hein, et pas seulement les grandes plateformes américaines, mais y compris des acteurs nationaux, l'idée que les utilisateurs puissent avoir plus de pouvoir sur leurs données personnelles. Moi j'ai quand même tendance à penser que c'est plutôt une avancée. Et effectivement, peut-être que demain, un certain nombre d'États exigeront que des opérateurs multinationaux localisent les données sur les territoires considérés. C'est quand même effectivement des questions qui émergent de plus en plus et qu'il va falloir se poser.
François-Bernard Huyghe,
oui, alors, cette souveraineté histoire numérique. De l'OS souverain, on ne va pas refaire le plan calcul. Peut-être que ça serait jouable à l'échelon européen, et encore faudrait-il qu'on se mette d'accord à 28 et que tout le monde joue dans la même équipe en Europe. Bref, c'est une question compliquée. Je suis pas contre le principe et je suis surtout pas contre l'intention. Donc là, il est très clair qu'il y a une prise de conscience de ces enjeux et que, quelles que soient les limitations de notre pouvoir par la loi, derrière la technique, il y a des effets de puissance immenses. Et cette puissance, elle repose sur deux choses. Le temps. Ils ont commencé avant nous, tout simplement. Mmh. C'est bête à dire, donc on va pas réinventer Google parce que Google existe. La question du temps, on la voit par exemple très nettement en Chine, où les Chinois ont pris le problème en avant, où ils ont fait un Google chinois, un Facebook chinois, etc., etc., en se donnant les moyens, ce qui fait qu'on aboutit à cette surprise pour les utopistes qui croyaient qu'Internet c'était parfaitement sans frontières, etc. La Chine se défend très bien derrière sa grande muraille. Je dis pas que c'est un exemple politique, je dis que c'est un exemple géostratique. Deuxième, juste une
petite... Amaël Guiton a l'air de douter, hein. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais...
Mais c'est-à-dire qu'effectivement, avec le cas chinois et ce Google chinois qui est quand même extrêmement surveillé, ou ce Twitter chinois qui est lui aussi extrêmement surveillé, là on voit aussi quel est effectivement le risque qui est celui d'une balkanisation et d'une restriction de la liberté d'expression, hein, tout simplement.
Oui. Alors,
Et derrière tout ça, il me semble qu'il y a un très gros problème, qui est un problème idéologique. Hein. Les GAFA ont une géopolitique. D'ailleurs, quand M. Schmidt de Google se balade, il est reçu par des chefs d'État, et le chef d'État est bien content de le recevoir.
Preuve qu'il est aussi puissant qu'eux.
Il a plus de population qu'eux, en tout cas. On est de ça, et derrière tout ça, on pourrait prendre l'exemple de Google, qui est porteur d'une vision du monde, selon laquelle, évidemment, les intérêts des États-Unis se confondent avec les intérêts de l'universel.
Alors, il y a cette charge française pour une souveraineté numérique, et puis il y a aussi la charge de l'Union européenne. Stéphane Grumbach, la Commission a présenté hier son programme de lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales. Il y a eu un rapport, je le disais tout à l'heure récemment, qui parlait d'un manque à gagner de 160 milliards d'euros, même si, évidemment, c'est très difficile à mesurer. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Enfin, en tout cas, c'est peut-être plus, surtout. On se souvient, évidemment, qu'en 2014, il y avait eu cette fameuse affaire, LuxLeaks, cette révélation avec ce vaste système qui permet cette évasion fiscale avec ce rôle central du Luxembourg. Tout cela avait convaincu Bruxelles qu'il fallait engager la lutte contre les GAFA. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet? Ça fait des mois qu'on parle de tout ça. Est-ce qu'il y a une chance de voir l'Europe forcer les GAFA à payer des impôts dans les pays dans lesquels ils mènent leurs affaires? Vous y croyez, vous, Stéphane Grombach ?
Oui, tout à fait. Alors, sur la question de l'évasion fiscale me paraît être assez simple par rapport aux autres questions qui sont posées, qui sont celles de la surveillance.
Tellement simple que beaucoup de pays ont tenté et se sont cassés les dents quand même. Hein.
Oui, c'est compliqué. Mais par contre, le fait que les plateformes soient devenues immensément riches et que dans le même temps, les États aient des difficultés budgétaires importantes, va forcer les États à s'organiser. Et ça concerne aussi les États-Unis, d'ailleurs. Puisque Apple, par exemple, ne rapatrie pas ses bénéfices aux États-Unis. Donc on voit un contexte où les États sont effectivement dans une capacité à avancer sur la question fiscale. Et j'ai pas de doute qu'on converge. On voit d'ailleurs un certain nombre de compagnies dans différents pays payer leurs arriérés et obtenir un quitus des pays. Donc c'est un sujet, à mon avis, qui est en bonne voie. Les autres sujets sont beaucoup plus compliqués.
Ouais. Vous êtes d'accord sur ce sujet-là ? On va y arriver ?
On peut l'espérer, mais effectivement, ça semble à l'heure actuelle être... Parce qu'il y a eu, lors des débats sur la loi numérique, justement, à l'Assemblée, une discussion autour de la question des données publiques. Est-ce qu'il faut les ouvrir ? Est-ce qu'il faut qu'elles soient gratuites, etc. Et on sentait bien de la part de plusieurs députés, qui sont d'ailleurs pas du tout dans le même camp politique, hein, aussi bien côté les Républicains que côté Parti communiste, cette idée que... si on fait payer les données de l'administration, ça peut permettre aussi de ponctionner les GAFA. Il y a quand même un certain nombre de parlementaires qui disaient que la voie fiscale, c'est en réalité la meilleure réponse, effectivement, pour essayer de rééquilibrer un minimum tout ça. Elle est effectivement moins complexe, mais vous le disiez très bien, Stéphane Grombach, que d'autres qui sont plus difficiles à aborder, y compris sur le plan technique. Ouais.
Vous êtes d'accord, François-Bernard Huyghe ?
Oui, tout à fait d'accord. Bon. Je peux pas ne pas être d'accord avec le fait qu'il paye quelques impôts chez nous, quand même.
Sur le fait qu'il devrait en payer, ça, on est tous d'accord, mais est-ce que l'Union européenne va parvenir à le faire?
Bon, alors, ce que pourra faire l'Union européenne dans un an ou deux, on en discutera, c'est un autre problème. C'est vrai, il faut faire tous les efforts dans ce sens-là, mais il me semble que c'est peut-être pas la bataille principale.
La bataille
dépendance, d'une part, tout ce qui touche, au-delà de la surveillance au sens NSA, espionnage, etc., à la prédiction des comportements et les grandes machines à prédire ce que nous allons faire, que ce soit pour nos achats ou pour garer notre voiture, vont se trouver sur le territoire des États-Unis, donc ils en sauront plus sur nous que nous, quoi, d'une certaine manière. Donc ça pose cette grande question du secret de l'État, ça pose la question du rapport de ces compagnies avec l'État américain. On est devant l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir.
Alors justement, pour évaluer ce rapport de force entre les GAFA et les autorités américaines. Récemment, c'était en novembre 2015, dans un procès pour trafic de drogue, un juge américain qui a demandé à Apple de venir s'exprimer sur la faisabilité technique de récupération de données sur l'un de ses appareils, considérant que ces données renfermaient peut-être des éléments qui pourraient faire avancer l'enquête. Le juge n'a pas forcé Apple à récupérer les données, comme il aurait pu le faire en s'appuyant sur cette loi All Rights Act qui permet à un tribunal de forcer une personne physique ou morale à fournir son expertise en vue de faire avancer l'affaire, mais il a juste demander à la firme de savoir si elle serait capable ou non de le faire, sachant qu'en théorie non, puisqu'il s'agit de données chiffrées. Alors Apple a fourni deux arguments. D'abord, il a dit qu'il ne souhaitait pas trahir ses clients, que tout cela ternirait terriblement son image. Et puis ensuite, cette opération lui coûterait de l'argent, lui coûterait des moyens humains. Et donc, deuxième élément. Finalement, il se trouve que dans l'affaire, l'accusé a plaidé coupable. Donc on aurait pu imaginer que cette recherche de preuves ne soit plus nécessaire. Mais les autorités américaines, elles, ont décidé de maintenir cette demande auprès d'Apple. D'ailleurs, le juge a demandé quelques éclaircissements sur tout ça. Mais en tout cas, cette petite affaire, Amaël Guiton, elle est importante parce que elle nous permet peut-être de mesurer les rapports de force qui existent entre les autorités américaines, justement, et ce géant du numérique, et de tester un petit peu le degré, d'allégeance entre les deux.
Mais oui, et puis alors c'est d'autant plus fascinant pour tout vous dire que sur la question de la cryptographie, le débat dure en réalité depuis des années. C'est-à-dire que ce qui est en train de se jouer là entre Apple, Google et les autorités américaines, c'est ce qui s'est joué sur toute la décennie 90 aux États-Unis autour de la question de l'export de technologies de chiffrement qui à l'époque était très très sévèrement réglementée parce que c'était considéré comme une technologie d'ordre militaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout du compte, au tournant des années 2000, il y a l'alliance de fait entre on va dire des ingénieurs californiens très libertariens qui prônaient l'usage du chiffrement précisément pour protéger les libertés individuelles, et de l'autre côté les entreprises, notamment le secteur bancaire, le e-commerce naissant, etc., qui disaient on a besoin de cryptographie parce qu'il faut qu'on puisse sécuriser les transactions sur Internet, ça a permis la libéralisation de la cryptographie à l'époque, alors même que les services de renseignement américains y étaient extrêmement opposés, et de la même manière le FBI, etc., qui justement disait ça va nous empêcher, nous, d'enquêter, de faire du renseignement, etc. Et donc ça se rejoue aujourd'hui après Prism, hein. Une fois de plus, on sent à quel point il y a eu un mouvement de bascule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour Apple comme pour Google, le premier enjeu, c'est de montrer qu'on protège d'abord ses utilisateurs et qu'on n'est pas inféodé au gouvernement américain, ce qui est précisément ce qui est ressorti de Prism. Donc effectivement, les rapports de force évoluent.
Alors Stéphane Grombach, justement, cette question, dans quelle mesure est-ce que les autorités américaines peuvent peser sur les GAFA ? Est-ce qu'elles ont encore les moyens de leur tordre le bras ? Ou finalement, ces multinationales se sont totalement émancipées ? Parce qu'on sait, on dit voilà, que les liens sont très forts, et on le comprend, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts qui ont été réalisés par l'État pour développer toutes ces entreprises. Mais finalement, cette allégeance, elle n'est pas aussi totale qu'on pourrait l'imaginer, hein, Stéphane Grombach.
Oui, il y a un équilibre en fait entre la capacité des autorités à accéder aux données et à exercer la surveillance et la confiance que ces compagnies, confiance dont ces compagnies bénéficient au niveau mondial. Si l'État est trop présent, cette confiance va baisser, leur part de marché va baisser également et la capacité de l'État à accéder aux données baissera également. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui est compliqué à maintenir et ceci est vrai. Globalement, je voudrais ajouter un point sur la Chine. Les Européens perçoivent les États-Unis et la Chine sur l'Internet comme étant opposés. Il y a beaucoup plus de choses qui rapprochent les États-Unis de la Chine, du point de vue de l'Internet, que de choses qui les séparent. Si le free speech est un bon exemple, la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution américaine et qui est plus soumise à restrictions en Chine, est vraiment une différence. Le reste, la capacité à générer cette industrie, à la créer, la capacité des autorités à interagir avec cette industrie pour la surveillance de manière générale. On s'est beaucoup inquiété que les Chinois, pendant la décennie précédente, que les Chinois développaient leur Internet seulement pour exercer un contrôle policier. C'était ignoré ce qui était su depuis les attentats du 11 septembre et l'augmentation massive du budget de la NSA, que les Américains faisaient le même effort. Et que cet effort est normal parce que c'est sur ces réseaux-là qu'on a les données, et ça ne peut être que à cet endroit que s'exerce la surveillance étatique.
Mais Pékin et Washington n'ont quand même pas la même conception de la liberté sur Internet, là.
Non, ils n'ont pas la même conception de la liberté sur Internet. Ils ont en commun la capacité de développer leur industrie, ils ont en commun le fait de ne pas dépendre de pays étrangers et d'avoir l'ensemble de leurs services et des données de leurs citoyens dans l'industrie nationale, et ils ont en commun d'avoir une politique de récolte de données à l'étranger, bien plus avancée pour les Américains, bien sûr, avec un soft power qui est évidemment beaucoup plus gros, mais la Chine poursuit la même ambition internationale. En Europe, à l'inverse, nous n'avons aucune activité extérieure et l'ensemble de notre activité intérieure se fait sur les systèmes américains.
Amel Guiton et puis François Bernard.
Oui, non, juste très brièvement, en général, il y a deux modèles différents en matière de gestion d'Internet. Il y a celui de la surveillance et il y a celui de la censure. Donc après, effectivement, c'est des équilibres. On va dire que le modèle chinois est quand même essentiellement à base de censure.
Visible et ostensible.
De censure visible, effectivement. Et après, j'avais été frappée, par exemple, qu'en Égypte, le réseau d'anonymisation Tor soit pas du tout bloqué. Donc on peut penser que dans ces cas-là, ce qui intéresse plus les autorités, c'est de surveiller ce qui se passe plutôt que de bloquer les communications.
Enfin, François Bernard Huyghe.
Oui, alors, toutes ces histoires, c'est d'interceptibilité. Il y a un mot anglo-saxon que j'ai oublié pour ça. Il y avait même des lois là-dessus avant Internet pour le
téléphone qu'il n'y ait pas de système que un enquêteur ayant un due warrant ne puisse intercepter. Sous Clinton, on voulait mettre des chips sur les ordinateurs, etc. Donc il y a une vieille obsession de l'État de ne pas laisser circuler des technologies dont il ne pourrait découvrir le contenu ou reconstituer les traces. Le problème, c'est que c'est la guerre de l'épée et du bouclier. Vous avez le dark web. Bon, moi, j'ai dans ce téléphone, on va pas faire de publicité, mais des applications qui vous garantissent que même le fabricant ne peut pas les décrypter, que ça s'efface. Donc, ceux qui veulent vraiment, y arriveront toujours. Je ne suis pas particulièrement désireux d'être fliqué, espionné, etc. Mais je pense que ça n'est pas le problème principal. Il faut peut-être moins s'obséder sur les services d'État et la NSA que sur le mouvement général qui fait que l'ensemble de notre vie et de notre trace deviennent calculables et prédictibles, et pas forcément par un service de police ou d'espionnage qui ne saura d'ailleurs pas quoi en faire en général.
François Bernard Huyg, vous qui scrutez les relations internationales depuis quelques années, et depuis avant finalement qu'Internet ne soit l'un de ces espaces.
Merci de rappeler mon grand âge.
De conflictualité, je ne voulais pas non, je ne me permettrai pas. Mais j'ai posé une question très générale. Finalement, qu'est-ce que Internet a changé justement dans les rapports de force entre les pays? Est-ce que Internet, c'est un espace dans lequel finalement se jouent les rapports de force entre les États comme ils se jouent dans tous les autres domaines? Ou est-ce que vous y voyez des spécificités et lesquelles?
Alors, oui, non. Les fondamentaux restent valables, puissance, influence, les fondamentaux de la géopolitique restent valables. Ça n'a certainement pas créé un monde sans frontières où les vilains régimes autoritaires disparaissent et où personne ne peut arrêter rien. Ça, c'était des niaiseries de croire ça. Qu'est-ce que ça a changé? Alors moi, je peut-être répondre pour le point qui m'intéresse le plus, qui est la guerre, hein, ou au moins le conflit. Là, ça a changé complètement les règles du conflit, et nous sommes à une période où on n'a pas très bien compris, pour être honnête, c'est-à-dire où on fantasme sur des armes informatiques qui pourraient paralyser des systèmes, et où celui qui est le plus fort, qui a le plus de technologie, qui est le plus riche, est par définition le plus exposé, par rapport aux plus malins ou aux plus vicieux. Mais tout ça reste très largement dans le théorique. Là, j'ai terminé un livre, Gagner les cyberconflits, avec deux amis, Olivier Kempf et Nicolas Mazzucchi. Et finalement, nous avions conclu en sachant, on ne sait plus très bien ce qu'est la victoire. Nous savons quelles sont les armes, quelles sont les possibilités, mais on n'a pas encore eu le Clausewitz, on n'a pas encore compris la façon de jouer les coups, et on a l'impression que tout le monde se retient.
Stéphane Grumbach, une chose qui me frappe là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il y a, je sais pas, 10, 15 ans, tout le monde disait les guerres de demain, ça sera dans le cyberespace, la cyberguerre, c'est la conflictualité de demain. Et finalement, quand on voit les choses aujourd'hui, regardons la Syrie, regardons même l'Ukraine, où on pourrait dire qu'effectivement, le cyberespace est un bon espace justement pour cette conflictualité. En réalité, ça se passe d'abord et avant tout sur le terrain quand même, le terrain militaire, je veux dire.
Oui, ça se passe aussi sur les réseaux et
oui, bien sûr, bien sûr.
Les États qui sont puissants en la matière augmentent leur capacité. Pour rebondir sur ces questions géopolitiques, je crois d'abord, je pense que c'est très important de parler de la guerre parce que on l'oublie peut-être, mais c'est un des éléments essentiels. Les grandes plateformes sont des acteurs nouveaux dans le paysage qui ne sont plus tout à fait des multinationales comme les multinationales étaient par le passé et qui deviennent des acteurs qui sont de plus en plus proches des États eux-mêmes. Mmh. Ils ont une population, ils sont plébiscités par cette population et donc les normes qu'ils imposent ou leurs lois sont plébiscités par la population. Donc si on prend le conflit d'Uber, par exemple, en France, on voit deux types de normes, celles qui dérivent de la loi et de la légitimité politique du territoire, et celles qui dérivent de la plateforme, qui est plébiscitée par la population. Ils ont des monnaies, qui potentiellement sont indépendantes des banques centrales, et leur rôle dans tout ce qui est contrôle politique, et la censure est universelle, puisque nous en sommes de plus en plus demandeurs dans nos pays. Il faut voir les fondamentaux. La censure n'est pas dans les dictatures. Elle est partout, chez nous aussi, et pour un ensemble de raisons qu'on va trouver justifiables, alors qu'on va trouver celle du voisin pas justifiable, mais technologiquement, et les porteurs vont être les mêmes acteurs. Donc ces acteurs deviennent effectivement dialogue avec les États, comme vous le rappeliez Schmitt rencontre les chefs d'État, ce ne sont plus des, simplement des entreprises.
Amaël Guiton, oui, mais en, conclusion.
En même temps, il me semble que, excusez-moi, tout ce qui se discute au niveau de l'Union européenne, par exemple le règlement sur la protection des données, etc. Ça montre bien aussi que justement les rapports de force évoluent et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de pas seulement de représentants des pouvoirs publics, mais de représentants de la société civile en général et d'utilisateurs qui se posent la question précisément du pouvoir de ces grandes plateformes sur leurs données. Donc moi je suis assez convaincue qu'il y a quand même une forme de prise de conscience. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez François Bernard Huyghe à propos des conflit dans le cyberespace. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que dès qu'on est sur Internet, on est dans un théâtre d'ombre. Dès qu'on s'intéresse au cas de piratage, de cyberattaque, etc., on se rend compte que la première difficulté, c'est de savoir d'où elles viennent.
Et vous pensez par exemple à l'attaque l'année dernière sur TV5.
Alors, c'est un très bon exemple.
TV5, c'est un excellent
personne
exemple.
Personne ne sait qui c'est.
Voilà, on a dit c'est par un groupe qui s'appelle Cybercalifat, mais
bidon, ouais. Probablement bidon. Après, on a dit, ce sont les Russes, mais alors les Russes, ils ont bon dos. Hein. Alors, les Russes, ça pourrait être d'ailleurs des mercenaires russes, pas forcément les ordres de Poutine ayant pris son téléphone. Il y a une troisième hypothèse qui circule, que je ne dirai pas à l'antenne. Un des problèmes du conflit, c'est que si vous ne savez pas qui l'a fait, vous ne savez pas ce qu'il veut. Oui. Donc, vous ne savez pas quand il aura gagné. Donc, les vieux principes clausewitziens sont bouleversés.
Merci beaucoup aux uns et aux autres, parce qu'on va maintenant retrouver Xavier Delaporte, parce que durant toute cette journée spéciale consacrée au numérique, eh bien, il nous propose tout un dictionnaire intime du numérique. Xavier Delaporte, je ne vous le présente pas, un chroniqueur dans les matins, bien sûr, mais c'est aussi le pop du numérique, hein, ici à France Culture, un ancien producteur de cette émission consacrée aux enjeux du numérique. C'était Place de la Toile, bien sûr, on le retrouve tout de suite. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Et aujourd'hui, donc, le mot, c'est Airbnb, où tout ce qui est à toi est à moi.
Enfin, presque. Jamais elle n'aurait pensé faire une chose pareille. Mais quand ses enfants lui ont expliqué comment ça marchait, qu'ils lui ont montré à quel point c'était facile et surtout qu'ils lui ont dit combien ça pouvait lui rapporter, elle s'y est mise. Il faut dire qu'elle avait plein de problèmes avec ses locataires. Et pourtant, ils sont dans le Marais, ces deux appartements, plein centre de Paris, 50 mètres carrés chacun. Le loyer n'était pas abordable pour tout le monde. Et ben, ça n'empêchait pas les problèmes. Maintenant, elle ne les loue plus. Elle s'est fait aider par sa fille, elles sont allées faire des photos, sa fille lui a montré comment entrer les annonces, et en deux temps trois mouvements, elles ont mis les deux appartements sur Airbnb. Elle n'est pas très férue d'informatique, mais il faut reconnaître que c'est bien fait ce site, et puis tout de suite elle a eu des demandes. Maintenant elle se branche tous les matins, et elle fait le planning des réservations. C'est rigolo. Elle discute un peu avec les gens en anglais, ça lui fait du bien. Elle aime bien les Américaines, elles sont sympas, elles sont joyeuses. Elle loue jamais à des groupes de garçons, jamais, c'est trop risqué. Quelqu'un de la copropriété lui a raconté qu'un studio de l'immeuble avait été saccagé par une bande d'Australiens, ça l'a refroidi. C'est fou le nombre d'appartements de la copropriété qui sont sur Airbnb. On parle que de ça aux assemblées générales, et il paraît que c'est comme ça dans tout le Marais. Le passage d'un locataire à un autre, c'est une entreprise qui s'en occupe. Une entreprise s'est créée il y a quelques mois, qui fait que ça. Des concierges Airbnb, en somme, ils prennent tout en charge, ils récupèrent les clés, ils les donnent aux nouveaux, leur expliquent tout, ils font ménage, ils changent les draps. Et même, ils arrangent un peu la déco. Elle a vu ça une fois qu'elle est allée vérifier. C'est un étudiant, il était là, appliqué. Il avait mis quelques livres de la bibliothèque en pile sur la table pour faire joli. Elle a trouvé ça rigolo. C'est pas donné tout ça, mais si elle devait le faire elle-même, elle y passerait ses journées. Elle n'ose pas dire combien elle gagne avec tout ça, elle sait pas trop si c'est légal, mais bientôt elle pourra peut-être investir dans un autre appartement. On lui a dit que ça s'appelait l'économie du partage. Elle a trouvé ça rigolo.
Merci Xavier Delaporte et on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette journée pour ce dictionnaire intime du numérique. Merci à vous, merci à tous nos invités, Amaël Guiton, notre partenaire Libération, Stéphane Grombach, François Bernard Huyghe et Ferhat Alani. Dans un instant sur France Culture, c'est la grande table avec Caroline Brouet, mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour, la vie moderne. Très belle journée et à lundi.